first sun of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
Il est 20h02 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission de Génération Sport, la deuxième sous Coupe du Monde. Il me semble que c'est bien ça, parce que l'émission a eu lieu la semaine dernière. Avec moi ce soir pour nous accompagner chaudement sous les 40 degrés angevins, j'ai Mathéo autour de la table. Salut Mathéo.
Salut Faustin, bonsoir à tous.
Ça va bien?
Bah écoute, super, il fait chaud effectivement, mais on est bien entouré donc.
Tout à fait, tu l'as dit, parce que on reçoit donc le club de Muay Thai de Trélazé avec Lauriane. Salut Lauriane.
Salut.
Avec Inès.
Salut.
Hugo.
Bonjour.
Et Mermoz.
Bonsoir.
Voilà, Mermoz qui est déjà venu dans l'émission, il me semble. C'est toi, Mathéo, qui nous fera l'interview juste après le sommaire. Le sommaire qui va être assez court et efficace, parce qu'on va faire une très grande partie sur la Coupe du Monde, qui prend nous aussi une très grande partie de nos journées, de nos soirées surtout, j'imagine. Et on finira par un peu de basket avec, si vous suivez un peu l'actualité, le trade notamment de Giannis Antetokounmpo vers le Miami Heat. Et on va commencer sans plus tarder, Mathéo.
Bah oui, puisque comme tu l'as si bien rappelé, on a avec nous ce soir un invité de marque, bien connu de nos auditeurs les plus réguliers. La dernière fois que tu es venu, Mermoz, c'était fin septembre 2025 pour nous parler de la venue de Rafi Boic, donc à Trélazé, pour un stage. On rappelle un grand champion de boxe thaï, plusieurs fois vainqueur du Lumpini, qui est l'un des sept plus grands stades de boxe thaïlandaise. Peut-être un des plus connus aussi, mais j'ai un peu peur de trop m'avancer. Peut-être d'un mot quand même, Mermoz, c'était comment ce stage, parce qu'on s'est pas revu depuis?
Écoute, déjà merci pour l'invitation. effectivement, ouais, c'était un stage qui était à la hauteur de ce qu'on attendait, avec Rafi Boic, multiple champion du Lumpini, et qui est venu passer un moment avec nous, qui nous a montré des techniques dignes des meilleures techniques de Thaïlande. Donc on a passé un super moment. C'était chouette, c'était bien.
J'ai vu sur Insta, justement, il y avait pas mal de monde quand même. Ça réunit pas mal de personnes.
Oui, il y avait des clubs angevins, clubs de Longuet, des clubs aux alentours d'Angers, des clubs qu'on connaît, quoi, qui ont l'habitude de venir sur nos stages.
Et est-ce que parmi vous trois, Hugo, Inès, Laurine, est-ce que vous avez pu le rencontrer? Est-ce que vous étiez au stage?
Ah oui, on a pu le rencontrer, on a pu aussi manger avec lui, donc on a pu échanger, et c'était une super journée.
C'était cool, est-ce que vous avez pu combattre un peu avec lui? Non, même pas.
Moi, j'ai eu l'occasion de tourner avec lui en clinch en gros le corps à corps en Muay Thai, et ouais, c'était une bonne expérience, quoi.
Et t'as pu en apprendre quelques trucs, est-ce que t'as gardé des techniques?
Ouais, j'ai gardé des techniques, c'était un des meilleurs stages que j'ai fait en vérité. Et là, il est c'est quelqu'un de très 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 pédagogue, très patient. Et j'ai bien pu, ouais, franchement, rien à redire, franchement. Bon enseignement, t'es là pour nous montrer, nous. Voilà, c'était le meilleur stage de boxe.
J'imagine qu'il y en aura d'autres, des stages. Mais avant ça, il y a quand même un grand événement. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, parce que nous, on est là tout le temps à Génération Sport. Mais on parle donc du Royal Stadium numéro 3, la troisième édition.
Oui, c'est ça.
Donc le 4 juillet prochain, c'est quand même un des événements principaux de boxe thaï dans le secteur d'Angers.
Oui.
Donc avant cela, avant de parler de la troisième édition en tant que telle. Il y a quand même pas mal de changements dans cette troisième édition par rapport aux autres. On va peut-être parler de la naissance du Royal Stadium très rapidement, revenir brièvement sur le début, la genèse de ce projet-là.
Alors, ça fait partie un petit peu des lignes d'un club de boxe thaïlandais, c'est de promouvoir la discipline, et puis ça passe par soit des stages, soit des démonstrations et surtout des galas. Les galas de boxe, ça permet aussi de mettre en lumière, en valeur, les boxeurs qui s'entraînent toute l'année. Parce que, sachant que c'est un sport qui est très difficile, ça demande beaucoup d'efforts, d'assiduité et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, enfin, la récompense, un petit peu, c'est de boxer à la maison surtout. parce qu'on n'a pas l'habitude, on boxe ailleurs, à Paris, à Nantes, un peu partout dans la France. Et le fait de boxer sur un gala à la maison, ça fait toujours plaisir.
Et la deuxième édition, du coup, elle a eu lieu, c'était il y a deux ans, du Royal Stadium. J'imagine que ça fait du bien aussi, ça fait un peu plaisir de voir le retour du Royal Stadium.
Oui, c'est ça, parce que pour des questions techniques, sur la deuxième édition, il a fallu qu'on aille sur les Ponts de Cé. Et du coup, là, on fait un retour à la maison. Et oui, effectivement, ouais, ça fait plaisir.
Est-ce que parmi vous trois, quelqu'un, alors moi j'ai déjà ma petite réponse, mais est-ce que vous avez combattu au Royal Stadium lors de la deuxième édition ? Inès, peut-être, du coup.
Oui.
Donc, du coup, ouais, ça t'avait bien plu, cette expérience-là.
Oui, c'est génial. Ouais.
Et parmi vous deux, Hugo, Lauriane, est-ce que vous aviez combattu ou ça va être la première fois ?
Moi, pour ma part, ça va être la première fois, du coup. J'ai pu assister aux deux premiers Royal Stadium et franchement, c'était pareil, vraiment un très, très bon gala. Surtout la première édition, justement, à la maison. Et ouais, j'ai hâte de pouvoir y être cette fois-ci.
Toi, Lauriane, pareil, première fois ?
Pareil, première fois, donc j'ai hâte.
On va pouvoir en parler, on va pouvoir revenir aussi sur vos adversaires, vos combats, vos attentes, etc. un petit peu plus tard, parce qu'on va parler des premières petites modifications quand même de ce Royal Stadium-là, la troisième édition, puisque c'est quand même le retour du Royal Stadium à Trélazé. Pourquoi ce choix de revenir un petit peu aux sources, là où tout a commencé aussi ?
Parce que, premièrement, quand on est parti sur les Ponts de Cé, c'était juste pour des questions techniques. Mais en fait, l'idée, c'était vraiment de rester sur Trélazé et puis offrir un spectacle aux Trélaziens, pas que, mais voilà, le club est sur Trélazé et puis ça permet aussi des habitants de Trélazé de voir un spectacle, quoi.
Est-ce que c'était aussi la demande parfois de jeunes du club, de membres pur et simplement du club, justement, qui se sont dit, bah, nous, on aimerait bien combattre là où on a grandi, là, on s'entraîne tous les jours aussi.
Oui, il y a de ça aussi. Et il y a aussi le public qui n'avait pas compris le fait de partir au Ponts de Cé. Enfin, moi j'ai eu des retours, disons que ouais, ben, c'était mieux la première édition, voilà, parce que c'était sur Trélazé. Et puis j'avais beau leur expliquer que techniquement c'était pas possible pour la deuxième édition, mais ouais, je pense que ça va faire plaisir aux habitants de Trélazé.
Oui, c'est bien aussi comme ça de pouvoir jongler entre Trélazé quand même, et puis aussi la salle athlétique, qui est une des grandes salles d'Angers, grande salle d'accueil, c'est quand même un privilège aussi de pouvoir être là-bas.
Peut-être un peu trop grande. Peut-être un peu trop grande. Et sachant qu'en plus, cette édition, voilà, on va en reparler, mais elle est vraiment basée sur les amateurs et les jeunes.
Bah justement, c'était la prochaine question, la question suivante. sur la philosophie un peu sous-jacente de cet événement, qui était déjà sous-jacente lors des précédents événements, mais là qui est vraiment plus assumée encore, qui est vraiment ce volet jeunesse, découverte, amateur, etc. C'est vraiment ce que vous avez essayé de mettre en place avec ce Royal Stadium.
Ouais, c'est ça. Sachant que la moyenne d'âge est de 20 ans sur cette édition. Et c'est vrai que ces deux dernières années, on a des juniors, on a des très jeunes là qui ont des très bons niveaux. Même on peut voir même techniquement qui peuvent rivaliser techniquement, on va dire, hein, pas qui peuvent rivaliser avec des pros, quoi. Donc c'est toujours agréable de voir ça. Il y a une nouvelle génération qui est là qui boxe vraiment vraiment bien.
Justement, c'est quand même un bon step aussi, j'imagine, pour le club, de pouvoir se dire, ok, là, on va faire un événement uniquement avec des amateurs, uniquement avec des juniors, uniquement avec des cadets. C'est quand même quelque chose d'assez fort, de pouvoir se dire, on a le réservoir pour pouvoir proposer ça, et aussi pour accueillir aussi des gens d'autres horizons. J'imagine que vous n'êtes pas les seuls à être présents à cet événement. Est-ce qu'on aura d'autres types de...
Oui, parce qu'en fait, on fait appel aussi à d'autres clubs, aux clubs qu'on connaît, des boxeurs qu'on a repérés pendant les championnats, pendant les galas. Et effectivement, il y a des clubs du Pouliguen, de Rennes, de Paris aussi, et qui viennent avec des boxeurs qu'on a pu voir évoluer sur des championnats qui font vraiment un bon travail technique, digne des meilleurs en ce moment.
Et justement, ça va être quoi les différentes catégories ? Alors j'imagine qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a trois grandes officielles, donc c'est quand même cadet, junior, amateur. De ce que j'ai pu lire sur le LOASO.
Ouais, c'est ça. Il y a du cadet. Cadet, c'est plus, on sera plus dans la démonstration. Et ensuite, ça monte sur les seniors, les classes B, les classes A. Sachant qu'un classe A, c'est un semi-pro. Donc, c'est la marche avant de monter en professionnel. Voilà.
Ok. Et justement, si on, enfin, si tu peux nous donner un panel un peu, est-ce que c'est justement réparti? Est-ce qu'on a plus de semi-pro, plus de...
Alors, on va avoir des classes. En fait, ça va être un équilibre. Un équilibre sur les semi-pro et les amateurs.
Ok.
Mais encore une fois, techniquement, il y a des amateurs qui ont le niveau de certains semi-pro, même voire pro.
Justement, on va pouvoir questionner un petit peu tous ces volets-là entre les amateurs, les semi-pro, etc. Mmh. Parce qu'on a quand même la chance d'avoir et des amateurs et des semi-pro avec nous ce soir. Encore une fois, on rappelle. Donc toi, Hugo, par exemple, tu es amateur. Tu vas combattre en amateur. C'était quoi pour toi quand t'es rentré au club il y a 4 ans, ce Royal Stadium? Est-ce que t'as connu l'édition précédente? Ça t'a forcément donné envie? Est-ce que ça a été aussi une source d'inspiration pour tes combats, de savoir que peut-être plus tard t'allais pouvoir évoluer dans un événement comme ça?
Ouais, bah déjà en commençant la boxe irlandaise, je me serais pas dit. Enfin, c'était grand pour moi de me voir boxer, par exemple dans ma ville ou me voir sur des affiches, etc. Donc bien sûr ça inspire.
Et justement, c'est cool aussi de pouvoir voir tes proches, te supporter.
Ouais.
Ça va être cool, ça aussi, j'imagine, dans ce volet-là.
Ouais, j'ai déjà pu combattre du coup à Trélazé, mais sur des plus petits événements. Et effectivement, il y a des proches à moi qui sont venus me voir. Et ça booste, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc, sur un gros événement comme le Royal Stadium, franchement, l'ambiance sera au rendez-vous.
Et toi, Lauriane, par exemple, t'es semi-professionnelle. Donc c'est encore autre chose dans ton parcours que ce Royal Stadium là. Toi t'es aussi très contente, j'imagine, de participer pour la première fois. Est-ce que tu penses avoir des attentes différentes ou est-ce que c'est foncièrement les mêmes que pour Hugo?
Bah après moi ça allait un petit peu vite. Donc j'ai commencé il y a pas si longtemps la boxe, donc là ça allait vite et je commence un peu à me rendre compte. Et là maintenant va falloir prouver que j'ai ma place et va falloir montrer quoi.
Et justement, dans ton parcours, cette arrivée du Royal Stadium, ça symbolise quelque chose aussi de ton côté, peut-être. Ben, revirement aussi, là, c'est vraiment la cour des grands.
Oui, c'est sûr. Puis je me suis beaucoup investi cette année, notamment dans le club. Donc là, ça fait plaisir avec les jeunes et tout ça. Donc ça va faire plaisir de pouvoir aussi accompagner le projet, boxer, représenter le club.
Maintenant, je vais me tourner vers celle qui a l'expérience aussi, forcément, de ces rendez-vous-là. Inès, et notamment ton lien avec Hugo, puisque vous êtes partis en Thaïlande tous les deux. Et du coup, est-ce que vous avez pu discuter de ça déjà là-bas? Est-ce que toi, tu penses avoir joué, Hugo, peut-être que tu pourras répondre aussi sur cette question, mais un rôle dans la participation d'Hugo au Royal Stadium? Vous n'en avez pas vraiment discuté?
Non, pas spécialement.
Non, ça s'est fait, ouais, comme ça.
Naturellement.
Et du coup, ça me permet de poser aussi la question, mais est-ce que vous, ce voyage en Thaïlande-là, ça a permis d'atteindre aussi des objectifs qui se reverront dans ce Royal Stadium-là? Je sais qu'on en avait discuté il y a 2 ans, justement, ce voyage en Thaïlande, ça représentait quand même quelque chose de fort.
Bah après, moi, quand j'ai commencé à 14 ans, l'objectif, c'était de partir en Thaïlande pour voir un peu les techniques, comment ça se passait. Et c'est vrai que j'ai énormément appris là-bas, niveau technique, même niveau respect, etc., au niveau les valeurs qui inculquent les Thaïlandais. Donc c'est sûr que c'était une expérience géniale, et si c'était à refaire, je le referais, mais dès demain, si je pouvais.
Et toi, du coup, qui as connu aussi les deux événements, et des événements thaïlandais et des événements français, est-ce que tu peux nous parler peut-être des différences, les similitudes, des chaleurs peut-être différentes que tu peux retrouver aussi dans les deux événements?
Ouais, déjà la chaleur. Bah, pour ma part, j'ai été malade du coup. À cause de la chaleur, j'ai dû me reposer 2-3 jours. Mais aussi au niveau des rounds. Donc là-bas, j'ai fait 4 rounds de 3 minutes. Or là, je fais des 3x2, 3x3. Donc c'est vrai que le niveau n'était pas le même. Après, boxer en Thaïlande, c'est plus... Le premier, deuxième et troisième round, c'est plus... on s'observe, on ne met pas beaucoup de coups. Et le quatrième et cinquième, c'est là où vraiment on envoie, etc. Mais c'est vrai qu'au début du combat, on s'observe un peu, voir comment l'autre boxe, etc. Et en France, c'est pas pareil. Enfin, si je peux dire ça, en France, c'est un peu bourrin. Enfin, il n'y a pas trop d'observation, etc. Donc voilà, c'est deux mondes différents, la Thaïlande et la France. Mais c'est un plaisir de combattre dans les deux pays.
Et on voit de plus en plus de personnes quand même aussi qui font la jonction avec la Thaïlande, qui vont voyager, essayer d'apprendre des techniques là-bas.
Oui, il y en a beaucoup qui restent 3-4 mois. Donc après, c'est l'objectif aussi de rester plusieurs mois quand on part là-bas. Et 15 jours, c'est pas suffisant. Enfin, nous, on est restés 15 jours, mais si on aurait pu rester 3 mois, je pense que Hugo, on l'aurait fait avec plaisir.
Et toi, justement, Hugo, ce passage-là en Thaïlande, j'imagine que comme avec Rafi Boic, t'as pu voir, apprendre des choses et peut-être des choses que tu vas essayer de remettre dans ton combat. Est-ce que là aujourd'hui, ça fait partie aussi des éléments centraux auxquels tu penses quand tu te prépares à ces combats-là?
Par rapport à la Thaïlande,
aux choses que t'as apprises en Thaïlande, ouais.
En Thaïlande, bah, en vérité, moi je trouve que bah, on a fait 3 semaines. Moi, j'ai fait 3 semaines et demie là-bas. Je suis venu légèrement en avant Inès et ben c'est assez en fait court pour apprendre de la technique, vraiment ancrer la technique en soi, mais sur ce que j'ai pu vivre là-bas, du coup ben c'est complètement différent de la France. Ça soit aussi le rythme des entraînements, c'est militaire dès le matin, après c'est la même chose le soir, c'est très dur, pareil avec la chaleur, l'atmosphère qui est lourde et humide, tout ça. C'est un vrai délire, la Thaïlande. Et ouais, ce que je peux dire après par rapport au combat du Royal Stadium, c'était quoi? C'est par rapport à ce que j'ai pu...
Les choses que tu as pu emmagasiner là-bas, tout le bagage, ouais, que tu vas ramener, que tu vas peut-être essayer de mettre aussi dans tes combats.
Déjà là-bas, la dureté qu'il y a là-bas, l'entraînement et aussi par rapport au combat, ça m'a permis de voir... entre guillemets, comment dire, ça, on va dire, augmente ton seuil de tolérance, que t'as connu un entraînement qui est hardcore et ouais, une vraie dureté. Donc ça permet de pouvoir, en fait, on a vu pire, en fait. C'est comme ça que je peux dire.
Et toi, justement, sur ton combat, il y a quand même quelque chose aussi qui est assez marqué, qui participe aussi à une sorte de storytelling dans l'événement. C'est que toi, t'as déjà combattu contre la personne contre qui tu vas combattre, que tu l'as déjà battu. Toi, c'est quoi? Comment tu te sens à l'approche de ce combat-là? Est-ce que tu penses justement avoir une approche différente du combat précédent que t'as eu contre la personne, ou vraiment rester sur les mêmes bases et continuer avec tes forces et ses faiblesses aussi?
Mais déjà, en ayant du coup bah, vu mon combattant en demi-finale, là je pars pas très sûr de moi ou quoi. Ça reste un combattant, il s'entraîne, donc moi je m'entraîne tout autant. J'ai aucunement sous-estimé. Et après pendant le combat, je vais écouter mon entraîneur, c'est tout, hein, rien de plus.
Justement, c'est quoi les conseils qu'on donne, Mermoz, dans ce genre de combat-là?
Alors, les conseils sont sur le moment, en fait. On met un game plan avant, et puis après, soit on continue à l'adopter, ou soit on essaye d'anticiper d'autres techniques ou d'autres stratégies selon le moment, quoi.
Et théoriquement, le Royal Stadium, c'est un gala, donc c'est censé être un peu une fête, mais j'imagine que c'est pas l'approche du tout qu'on a des combats. Il n'y a pas une approche festive, il y a une approche véritablement sportive et de compétition aussi derrière.
Ouais, c'est clair, mais ça reste quand même du spectacle, avant tout, quand même. C'est quand on fait un gala aussi, c'est ce qu'on recherche aussi, c'est donner du spectacle aux spectateurs. Quand ils viennent, ils sont en famille, entre amis, c'est qu'ils... quelque chose, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et en plus, pour la petite anecdote, on aura des musiciens qui feront la musique, le Samara. C'est une musique qui accompagne les combattants. Donc, il va y avoir des musiciens et puis ça rapporte encore une plus-value au spectacle.
Ouais, donc finalement, il n'y aura pas tant de différence. Enfin, si, il y en a forcément, mais je veux dire, on essaie quand même de te rapprocher un petit peu de ce qui peut se faire là-bas avec vraiment.
C'est un peu l'idée quand même, ouais. C'est de s'en rapprocher, même si. On est très loin, mais l'esprit sera là, en tout cas.
Il y a même un DJ, j'avais vu.
Il y a aussi un DJ pour ambiancer entre les deux rondes ou sur la minute de pause aussi, sur l'entracte. Mm. Oui, il y aura un DJ, il y aura peut-être des danseurs et des danseuses. Alors, il y aura des surprises, en tout cas.
Plus aussi un snack, quelque chose, j'imagine aussi.
Oui, c'est ça, une restauration aussi. Avec un partenaire qui est sur le territoire, qui est sur Trélazé, un kebab qui est sur Trélazé, on va travailler avec lui. Donc vous n'aurez pas besoin d'aller chercher à manger.
Voilà, directement sur place. Non, bon, on reviendra un peu sur le volet technique un peu plus tard. On va revenir sur le volet un petit peu sportif, parce qu'on n'a pas évoqué quand même les autres combats, dont le tien. Lauriane, tu as quand même enchaîné 15 combats l'année passée. c'est énorme, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment est-ce qu'on compare un combat de plus, j'ai envie de dire, à ce niveau-là?
Après, bah, c'est ce que je disais, c'est que ça allait vite, donc je ne me rends pas forcément compte. Cette année, j'ai un peu moins combattu, donc il y a plus de prépa. Mais bah, en tout cas, j'ai hâte et je prends chaque combat avec plaisir, quoi. On a de la chance de combattre, donc je prends et c'est parti.
Et tu la connais ou pas ton adversaire?
Non, je la connais pas.
Tu la connais pas et t'as pas des, je sais pas, un petit aspect technique, des choses que t'as pu apercevoir ou qu'on a pu te dire ou tu vas vraiment bah, avec ton apprentissage à toi personnel et puis.
Ouais, non, pas encore. Donc j'y vais avec mon apprentissage. On verra sur le moment. Puis bah, le game plan et ma boxe et sur le moment on verra aussi.
Mermoz,
juste pour ajouter parce que Lauriane a boxé le 13. Le 13 juin, contre une personne, et elle était censée là, faire le retour chez nous. Sauf qu'elle a été blessée pendant le combat, donc il a fallu chercher une autre adversaire.
Okay.
Et l'adversaire, on l'a eu que hier.
Ouais.
Ah oui, d'accord, donc justement, ouais, c'est un peu compliqué de connaître. Ouais.
Mais voilà.
Donc, non, c'est dommage, ça aurait pu faire deux, justement, ouais. Combats un peu.
Mais elle a blessé, enfin, elle est, au premier round, elle a perdu. Enfin, elle a. Ah bon, c'était abandon.
Ouais.
Donc, voilà. Elle était blessée, donc elle n'a pas pu. On n'a pas pu, on ne va pas la voir sur. Donc, il fallait rechercher une autre adversaire et on l'a trouvée hier. Donc, on va l'étudier quand même. On va l'étudier, là. On a une semaine pour l'étudier et puis on verra bien.
Bah effectivement, et puis j'imagine qu'il y a plein d'autres combats aussi très alléchants pendant cet événement.
Oui,
tous en fait, mais.
Ouais, il y a tous des combats. Après, c'est vrai que la difficulté, c'est de trouver un équilibre entre les combattants, en fait. Enfin, c'est ça qui est compliqué. Mais en plus, on est en fin de saison, donc la plupart des boxeurs, soit ils sont blessés, soit ils sont fatigués de leur saison. Donc ça a été. C'est très compliqué, mais on arrive à trouver. On a réussi à trouver quand même, donc il y aurait vraiment du spectacle, un beau spectacle. Et voilà.
Et tu dirais que par rapport à l'événement au Royal Stadium 2, ça a été plus facile, différent de trouver des adversaires aussi, parce que c'est quand même pas la même approche.
Ça a été plus facile. Même là, ça a été, enfin là, c'était super compliqué. Bon, là, on va finir par boucler, mais c'est super compliqué. Ouais.
Bon, on rappelle en tout cas le Royal Stadium, c'est donc le 4 juillet 2026. À Trélazé, à la salle de la Gaudussière.
Gaudussière, ouais.
Où est-ce qu'on peut réserver?
On peut réserver sur le site Iloasso. Alors, vous pouvez trouver le lien soit sur Facebook, soit sur Instagram. Et voilà.
Et on va quand même peut-être questionner un peu l'avenir aussi pour clôturer cette interview. Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu dans les petits papiers au niveau du club?
Bah, bien sûr, parce que l'année prochaine, on fête les 10 ans. Donc. Là, on commence déjà à réfléchir à l'année prochaine. Bon, il y aura peut-être des surprises, peut-être un combat pur thaïlandais, j'en sais rien. Mais c'est voilà,
il y a des petites choses sympas qui arrivent.
Comme ça.
Ok. Ouais. Bon, en tout cas, nous, on est là. N'hésitez pas à revenir dans ces cas-là si vous voulez nous en parler. C'est quoi aussi l'avenir pour vous trois, quand même? Histoire de vous questionner un peu sur ce qui va arriver, parce que on parle d'avenir, mais l'avenir d'un club s'écrit aussi forcément avec les gens qui le constituent. Toi, Lauriane, qu'est-ce qui va devenir? Tu pensais quoi un petit peu tes projets en termes de boxe thaï?
Bah, déjà, la boxe, je l'ai mis en premier plan, donc j'espère que je vais aller le plus loin possible. Et pourquoi pas prendre un titre, ça serait bien comme ça, au moins. Pour annoncer que j'ai ma place dans cette catégorie, quoi. Pourquoi pas monter si je peux vers la fin de l'année, à voir.
Du coup, toi, là, tu as un statut semi-professionnel. Est-ce que tu vises encore plus haut ou pour l'instant, tu te satisfais un peu de ton statut et tu essaies vraiment de nourrir des ambitions presque au jour le jour?
Bah, ça allait vite, donc difficile à dire, mais pourquoi pas? J'aimerais bien aller plus loin possible. Là, comme je dis, c'est un premier plan, donc aller le plus loin.
Et toi, Inès, qu'est-ce que ça dit? Il se passe des choses encore, j'imagine, de ton côté. Qu'est-ce que tu vises, toi aussi?
Bah, moi, je me souhaite de nombreux combats encore. Des titres, des ceintures, et puis l'objectif c'est de monter pro, et puis voilà, continuer à faire mon petit bonhomme de chemin, comme je l'ai fait depuis 8 ans, donc voilà.
Ouais, bah t'es peut-être la plus expérimentée aussi autour de la table à ce niveau-là, ouais. Et toi t'es en semi-pro?
Là je vais combattre en semi-pro.
Ok. Donc bah, c'est quand même un beau step aussi. Donc, et toi Hugo, ton objectif c'est le passage en semi-pro aussi?
Moi j'aimerais bien avoir un jour des ceintures Voilà, donc on va travailler pour, et c'est ça. Hein.
Bah, t'as déjà remporté presque, enfin, t'as combattu dans un gala le 30 mai, t'as remporté déjà une ceinture en soi.
Ça, c'est une ceinture, donc ceinture de l'événement, mais j'aimerais avoir décroché une ceinture champion de France ou plus encore. Une ceinture vraiment prestigieuse.
Bon, en tout cas, Mermoz, ça nourrit de l'ambition au club de Trélazéen.
Oui, et puis c'est des bons athlètes, et ils ont tout pour, en tout cas. Ils ont tout pour réussir. Je me fais pas de soucis pour ça. Ils ont les qualités.
Bah, merci en tout cas d'être merci. Venu parler de l'événement sur Radio G. Donc on rappelle, c'est le 4 juillet,
4 juillet ouais.
À Trélazéen. Vous pouvez avoir toutes les informations sur le LOASO, le Instagram aussi, la page Instagram, page Facebook peut-être aussi du
Facebook
club.
Aussi.
Bah. Ouais. Mm. Donc à tous ces endroits-là. Et puis bah, voilà, n'hésitez pas, venez nombreux.
C'est ça.
Et puis pour avoir été au Royal Stadium 2, je vous conseille de venir. Mm. Effectivement, je pense que ça reste des grands événements, des événements importants.
Tout à fait, on fait bien d'en parler dans les studios de Génération Sport et de Radio G. En ce qui nous concerne, on va passer la pause musicale. On va libérer nos athlètes du four qui est le studio de Génération Sport. Et on va s'écouter Une main lave l'autre de Alpha One tout de suite sur le 101.5 FM de Radio G.
Je m'épaissis, le lieu rétrécit, je me secoue. Je tape les murs comme un dépressif. Où est l'issue de secours? C'est dur d'ouvrir les yeux, je crois que je suis pété. Un gars en blouse blanche coupe le cordon. J'arrive dans cette douce France, une nuit d'été. Hey, moi je suis pas sorti du ventre de ma mère pour vendre de la merde. Jeune, Renoir introverti, esprit bien trop fertile pour le système scolaire. Avec les collègues, c'est au fond qu'on se collait. Là où les cancres et les fouteurs de merde se connectent dès le collège. Tu connais l'époque des pulls comme aide. Cette époque est passée vite, une existence assez vide. L'adolescence assez vise, très jeune j'étais lassé de vivre. Aujourd'hui je monte et guette les frères en descente. Cette vie est clairement stressante, j'y ai vu plus d'enterrement que de naissance. Un 9-9-5, ma main gauche et ma main droite, l'entourage, mon cœur et mon sang, mon gun et mon plan. Une main lave l'autre. Une main lave l'autre. Une main lave l'autre. Une main lave l'autre. Une main lave l'autre, mais elles se joignent pour laver le visage. Mon zinc ou du bled m'a dit que sa vie changerait s'il avait le visa. Ouais. Comme lui je passe ma vie à attendre des choses qui n'arrivent pas, nique sa mère, pas de panique, ça m'aide. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort et rend mes lyrics amers. 6h30 du mat, visage éclairé par l'écran du Mac. Je pense encore à elle, classieuse même en tongs. Elle m'a quitté bêtement, j'aime comment ses vêtements tombent. Je lui ai confié mon cœur, elle l'a mis dans la benne. Belle comme la femme d'un autre, elle m'a rendu bègue. T'as laissé ta trace dans ma vie en m'enlevant l'âme. Je suis avec une autre mais je pense encore à toi pendant l'acte. C'est parce que mon ex me disait, un jour tu seras traité comme tu me traites. Aujourd'hui j'ai tout compris d'une traite. Je suis un Renoir, laisse-moi geindre comme les miens. Elle s'en fout de ma vie alors qu'on devait se joindre comme les mains. Une main lave l'autre. Une main lave l'autre. Je suis celui dont la famille a très honte. J'existe à travers une mine de crayons. Mène une vie de mécréant. Le daron pense qu'il n'aurait pas dû venir ici. Fils, aîné lyriciste, menteur, voleur, consommateur d'illicite. Ma vie est flinguée, c'est moi le tireur. Quelle honte, j'ai des petits rêves. Faut que je m'écarte du mauvais chemin et que Dieu les garde. Ouais. Qui est cet inconnu dans le miroir de la salle de bain? Je sais que ce loser sera encore hal demain. La vie c'est un match, faut rentrer tous les shoots. Mauvaise humeur tous les jours, l'impression que l'enfer est sous mes shoes. Je rappe la gloire du matériel, mais je vise le paradis. Est-ce que je maximise mes chances quand tu assimiles mes chants? Chaque jour, je vais plus bas, puis je demande au loser, est-ce que t'as fini de descendre? J'ai un briquet, vas-y, vide l'essence. Je perds mon temps à appliquer mon art et je mène une vie d'ordure. Seule la prière peut recycler mon âme. Une main lave l'autre.
Respect à Nubisal et à Salif, les étoiles s'alignent. Vrai noir en peignoir, tu nettoies, je salis. Paye-moi, j'arrive dans cette merde comme Jean-Jacques Dessalines. Je suis un négro spatial, connecté avec quelques ghettos spartiates et des goasiates. Ils veulent être chi. Moi, du mercredi au mercredi, je veux faire des sous comme être Gims. Vous pouvez être deux, vous pouvez être dix. Quoi qu'il se passe, les vrais nègres dînent et je fais que de le dire. Dundan, Bob Prada, fuck Panam. Je suis avec un bord à dame. On fait du vélo et on fait du shopping. C'est pas ma vraie go, non, c'est juste une copine. Son tarpé est gros, c'est plutôt une coquine. On s'emboîte comme l'ego. Quelques coups de fil et on dièse ensuite. Livre sterling, yen franc suisse. Quand t'as le bis expansif, t'as le bras long pire extensible. Macro, quelques coups de fil et on dièse ensuite. Livre sterling, yen franc suisse. Quand t'as le bis expansif, t'as le bras long pire extensible. Macro, représente le 2x7. Macro, je mets Paris Sud sur la carte. Macro, on raye ta voiture comme un zèbre. Macro, je suis descendu, je suis à Cannes. Macro.
On est de retour dans Génération Sport sur le 101.5 FM ou bien le site www.radio-g.fr. Excusez-nous, on a fait une pause musicale un peu plus longue histoire de dire au revoir à Mermoz, Hugo, Lauriane et Inès. Vous avez le droit, le privilège de profiter un peu plus d'Alpha One.
Quel privilège ?
Voilà, un peu de
on peut
de
pas s'en plaindre.
Exactement, une main lave l'autre en entier, enchaîné sur Macro, c'est plutôt pas mal. En ce qui nous concerne, on va enchaîner. Avant ça, j'aimerais faire un petit message de prévention, parce que si vous nous écoutez, c'est que vous êtes fan de sport, et en ces temps de canicule, il faudrait éviter voilà, de faire du sport dans des endroits non climatisés en journée. Si vous comptez aller courir, privilégiez tôt le matin ou tard le soir pour éviter tout risque d'insolation ou de déshydratation. Voilà, ne prenez pas de risque et écoutez vos corps.
Quel beau message. Moi, je pourrais même dire que là, si on va courir à 3 heures, on fait une petite heure de course, on revient à 4 heures, il y a un alléchant. Colombie, République démocratique du Congo.
Ah bah parfait.
Me connaît mieux, en fait.
On va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu as pensé de la République démocratique du Congo ?
Magnifique match en fait contre cette superbe équipe du Portugal.
Voilà.
Non franchement, bah si tu veux vraiment qu'on parle du Portugal,
Je pense qu'on va pas commencer par ça.
C'était un match intéressant,
oui,
mais sur quoi partir finalement ? Autre chose.
Je serais parti sur l'équipe de France peut-être, le sujet qui me touche le plus, j'imagine, assez brûlant aussi avec le match d'hier soir, qui a duré au total 3h15, il rentre dans l'histoire, c'est le match le plus long de l'histoire de la Coupe du Monde, tout simplement, qui s'est donc fini sur une victoire 3-0 de l'équipe de France, un nouveau doublé de Kylian Mbappé après celui contre le Sénégal mardi dernier. Et un but de Dembélé aussi qui a lancé sa Coupe du Monde après avoir offert le but du 2-0 à Kylian Mbappé. Qu'est-ce que t'as pensé de cette équipe de France sur ces deux premiers matchs, toi ?
Bah, je dirais que honnêtement, c'est sans doute moins pire que ce à quoi je m'attendais,
okay.
Notamment sur les phases, les temps faibles, parce que cette équipe de France a des temps extrêmement forts avec quand même, enfin, ce quatuor offensif absolument monstrueux, mais on a aussi des temps quand même assez faibles, et c'est les temps faibles qui nous ont coûté très cher, hein, en préparation, notamment contre la Côte d'Ivoire,
ouais.
Qu'on n'a pas vraiment eu contre le Sénégal. On a eu des temps très très faibles, mais qui franchement nous ont pas coûté si cher
non,
que
on
ça.
On a pas été très punis.
Et là, contre l'Irak, c'est la même chose. Alors, c'est aussi facilité par le fait que Ayman Hussein sort au bout de 20-25 minutes de jeu, je crois, sur blessure.
Ouais.
Ayman Hussein, qui est le grand attaquant de cette équipe d'Irak aussi, mais bon, c'est pas que ça. C'est aussi parce qu'on a eu un joueur peut-être plus intéressant en termes de régulateur que Tchouaméni, qui était Koné, titulaire sur le deuxième match. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais...
Ouais, en vrai, ça se gauche, je pense. Il n'y a pas non plus une diff abyssale entre le duo Rabiot-Tchouaméni et Rabiot-Koné, mais c'est vrai qu'on a vu quand même plus de travail au milieu de terrain, quelque chose de plus intéressant avec Koné, qui a récupéré plus de ballons quand même, et qui pouvait créer plus de situations que Tchouaméni, je trouve.
Ouais, bah c'est ça, plus de hard, j'irais.
Ouais,
vraiment. Et puis un truc qui se transmet un peu aux autres aussi, parfois.
Ouais,
quoi. Enfin, on a vu des retours défensifs d'Mbappé. Comment ça ? Comment ça ?
Contre-pressing.
Voilà, bah il avait dit qu'il essaierait de s'inspirer peut-être du contre-pressing de Paris et tout, mais c'est vrai que si on a un Mbappé qui défend, ça change quand même vachement la donne. Quelques questionnements quand même sur certains postes, notamment les latéraux.
Ouais.
Je pense.
Mais ça où les choses ont été testées. À gauche, on a eu Hernandez titulaire puis Digne titulaire. À droite, Koundé était titulaire deux fois, mais Gusto est rentré hier soir. Ouais, c'est ça, il est rentré. Honnêtement, à gauche, je pense personnellement préférer Digne. Voilà, avec en fait, on a assez d'attaquants. On n'a pas besoin d'un Théo Hernandez aussi offensif que ce qu'on peut le connaître. Et à droite, entre Koundé, Malo Gusto, ça se voit aussi. Là aussi, je pense que je privilégierais plus Koundé. Pareil pour un peu le la même le même aspect où Malogusto peut monter très haut. Là, contre des matchs contre l'Irak, ça peut être pas très punitif, mais contre des matchs plus tard dans la compétition, contre des nations plus fortes, il faudrait faire attention à ça, je sais pas ce que t'en penses.
Bah, moi, je te rejoins un peu là-dessus. Le fait est quand même que sur ce match contre l'Irak, Digne n'a pas été impérial quand même défensivement.
C'est vrai.
Notamment sur la fin de match où on a vu des choses en termes de placement dans la surface assez hasardeux. Maintenant, je pense que ça se vaut. Ça va dépendre de la tactique de Deschamps. Ça dépend de qui il met aussi, parce que là, il a mis Barcola, donc dans une recherche de profondeur, c'est vrai que ça sert à rien d'avoir un Théo Hernandez. Avec un Désiré Doué, électron libre, c'est quand même un peu différent. Sur le cas Gusto Koundé, je pense qu'il a jamais été question même d'un potentiel changement.
Non, c'est vrai, mais Gusto pourrait rentrer plus tôt dans un match qu'il l'a fait là, ou même rentrer, parce qu'il n'est pas rentré contre le Sénégal, quoi.
Ouais, mais ce qui a été un peu dommage pour le coup, parce que ça a marché en deuxième mi-temps, mais sur le choix de départ de Deschamps, qui était de mettre un Koundé très offensif quand même, qui venait en décrochage, en accompagnement offensif avec Olise, mais de manière très très haute, hein, c'est pour ça qu'on le voyait perdre des ballons très haut, et que au final le match de Koundé a pas vraiment été très bon face au Sénégal. Là-dessus, Gusto est à des années-lumière sans doute de Koundé. Par contre, Koundé, c'est une assise défensive qui est quand même vachement différente. Meilleur sans doute que Malogusto, et surtout je pense que Malogusto c'est un joueur mais comme c'est un peu le cas aussi pour Désiré Doué, que foncièrement Deschamps c'est pas tellement bien utilisé, je
tout
dirais
fait, ouais.
Qui colle pas tellement avec le football de Deschamps, et donc c'est pas du tout étonnant de le voir sur le banc effectivement.
Non, voilà, bah, c'est ce qui était prévisible, c'est ce qu'on voit, donc je suis de ton avis, ça me choque pas. Moi, ce qui m'a aussi rassuré dans l'équipe de France, c'est la charnière centrale, Upamecano Saliba, qui dans les deux matchs a quand même été plutôt bonne, notamment contre le Sénégal en première mi-temps où ça proposait pas grand chose. Il y a quand même eu des ballons dangereux pour le Sénégal, mais qui ont été bien contrés par cette charnière centrale qui est sûrement la meilleure du monde.
Peut-être parce qu'après le jeu défensif de la France, c'est très compliqué quand même. Il y a vraiment des temps faibles qui font que
là,
oui, bien sûr, mais en fait c'est un duo, c'est une sorte de mini tandem. Sur un quatuor, enfin six joueurs, quoi, voilà, de deux lignes entières qui pour le coup fonctionnent pas très bien ensemble. Donc, mais c'est vrai que sur la qualité des centraux, oui, et Saliba qui joue sur une jambe et demie face au Sénégal et qui joue très très bien, et surtout Upamecano, mais même hier, cette nuit, Upamecano c'est monstrueux.
C'est heureusement qu'on a cette charnière centrale pour quand même. Libère un peu Mike Maignan, le soulager qui a pas eu beaucoup d'arrêts à faire pour l'instant. Assez mitigé de ton côté, j'ai l'impression, sur l'équipe de France quand même, avec ces deux matchs.
Bah, je pense que le vrai test pour le coup, alors j'avais dit ça sur le Sénégal, donc effectivement, mais là vraiment la confirmation de la bonne forme ou non de l'équipe de France, qui a quand même déjà marqué 6 buts dans la Coupe du Monde, dont 3 au Sénégal. Le Sénégal, c'est pas une équipe de peintres, même si là ils perdent contre la Norvège, on va peut-être y revenir, mais c'est assez étonnant en vrai. Du coup, il y a tout un tas de choses qui font que cette équipe de France elle est très satisfaisante. Il y a quand même des moments de moins bien, et notamment du moins bien défensif. Et c'est une équipe hyper hyper offensive qui a globalement la même structure idéologique, on va dire, que nous, à savoir une attaque de feu. C'est ça. Et du coup des grosses largesses défensives. On va voir ce que ça va donner. Moi j'ai peur quand même, parce que le pressing de la France est quand même terrible, voire néant. Il n'existe pas. C'est ce qu'a dit de toute façon le sélectionneur de l'Irak en conférence de presse d'après match. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut faire peur sur des grosses équipes de possession, des grosses équipes de pression. Je pense que ça, là-dessus, vraiment, il y a quelque chose qui risque d'être compliqué, mais en même temps, si vraiment on a ce quatuor qui fonctionne bien, là, j'ai trouvé vraiment l'association aussi entre Dembélé, Olise et Mbappé très, très, très intéressante.
C'est clair. Avec plus, du coup, Olise en 10 et Dembélé à droite.
Ouais, c'est ça. Ça a été vachement intéressant. Barcola a été pas très bon, existant.
Il a touché très peu de ballons. Moi, ce qui m'étonnait beaucoup, c'est justement sur ce pressing où Barcola était toujours éloigné. Il restait toujours dans son couloir, même quand la France n'avait pas la balle. Il coupait pas de ligne de passe spécialement pour le latéral adverse, tout ça. Je trouvais ça assez étonnant. J'ai pas trouvé la raison de ce choix. Je sais pas si c'est Barcola ou Deschamps qui a pris ce choix, mais je trouvais ça étonnant.
Peut-être que l'idée, c'était effectivement de garder comme on fait à chaque fois avec Mbappé, de garder un joueur offensif seul, prêt à partir, en se disant bon bah là Mbappé, il va revenir défendre parce que peut-être que physiquement il est plus intéressant, même si c'est pas un bon défenseur en tant que tel, et de garder cette structure à trois tout le temps ensemble, prêt à combiner dans les petits espaces. Peut-être que c'était ça. Après effectivement c'est un peu étonnant, c'est même vraiment, enfin c'est un peu bizarre de faire ça dans le football actuel où justement chaque don défensif compte à tous les étages. Donc quand même un peu de questionnement encore sur l'équipe de France, mais je dirais que c'est quand même plus prometteur que ce qu'on pouvait imaginer, je pense, avant la Coupe du Monde.
Ouais, je pense qu'on aurait signé directement pour mettre tronc au Sénégal, 3-0 à l'Irak avec 4 buts de Mbappé en plus. Donc ouais, clairement ça fait plaisir. Donc pour toi aussi, contre la Norvège, la France ne va pas faire tourner, on aura encore un 11 type.
Bah, tu joues pour la première place, pour le coup. Donc, tu joues. Après, tu joues pour un tableau qui est pas forcément meilleur. Je l'ai vu le tableau. C'est quand même pas la même chose. Soit t'es dans la partie tableau de l'Espagne, soit t'es dans la partie tableau de l'Angleterre.
Ouais. Après, est-ce que c'est la mentalité de l'équipe de France de se dire on va faire exprès entre guillemets de perdre un match pour être dans l'autre partie de tableau? Je suis pas sûr non plus. Je pense que on est plus dans un état d'esprit de vouloir tout gagner. Qu'aucun adversaire nous fait vraiment peur et que si on doit jouer l'Espagne en demi-finale ou en finale, ce sera la même chose.
Ouais, je pense aussi, mais je sais pas s'il fera vraiment tourner. Hein, Deschamps, peut-être que ça va tourner un peu au niveau des postes un peu plus secondaires, avec effectivement, là, on aura peut-être le vrai choix du latéral gauche, on aura peut-être le vrai choix du milieu de terrain, et puis derrière, tu fais tourner un peu les postes un peu plus offensifs. Peut-être qu'on n'arrivera pas avec 4 gros attaquants.
Non.
Même si ce serait un peu dommage, parce que je pense que la bonne manière de gagner face à cette Norvège, c'est de marquer plus que.
Oui.
C'est vraiment, tu forces la porte et puis voilà. Donc on verra ce qui se passera. Sans doute que effectivement il y a des joueurs qui vont tourner. Peut-être que Rabiot par exemple sera pas titulaire.
Ouais.
Je serais pas choqué de voir un Koné Tchouaméni titulaire.
Tout à fait. Ouais.
Ce qui serait assez déséquilibré, mais
à voir.
Sur elle dont d'exister. Donc des changements, oui. Toute la structure, toute l'ossature qui change, je pense pas. Et on verra, mais ça va être un super duel dans ce truc de Haaland vs Mbappé.
Ouais, c'est ça. Hein. Franchement, ça va être très cool. Tous les deux avec 4 buts du coup dans ce mondial, 2 doublés en 2 matchs. Est-ce qu'on enchaîne direct avec le Sénégal, tant qu'on en parlait, par lequel on a été, je pense, un peu tous les deux déçus, notamment hier soir avec cette défaite 3-2 contre la Norvège. Ils avaient quand même été intéressants contre l'équipe de France. Ils ont intéressant. J'ai quand même trouvé pas au niveau auquel je les attendais. Je les attendais à avoir plus de répondants face à une équipe de France, notamment en première mi-temps, qui était assez décevante.
Bah, plus de tranchants offensivement,
ouais.
Carrément. Après, on a vu une équipe très 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 basse. Preuve en est quand même le penalty donc non sifflé sur Mbappé.
C'est Sadio Mané.
C'est Sadio Mané qui le provoque. Et Sadio Mané dans une position de latéral gauche, c'est quand même assez étonnant.
Ouais, c'est clair.
Quand on connaît l'âge de Sadio Mané, on sait que c'est un joueur qui se tue pour son pays et même pour son club. Là-dessus, on peut pas du tout lui enlever. Mais le coach doit aussi constituer avec le fait que c'est un joueur un peu plus vieillissant, qui joue dans un championnat aussi qui est quand même pas au niveau Coupe du Monde, au niveau top 5 européen, etc. Donc c'est quand même assez différent. Moi, j'ai été quand même vachement déçu par l'apport offensif de cette équipe du Sénégal et finalement par l'apport défensif aussi, même si j'étais allé voir un peu justement après la saison qu'avaient fait les différents joueurs du Sénégal après l'émission qu'on avait fait de projection sur la Coupe du Monde.
Ouais.
Et j'avais vu que Koulibaly avait pas joué depuis trois quatre mois.
J'ai pas l'info non plus.
Et le fait de le revoir titulaire direct et pas un Mamadou Sarr par exemple,
ça
questionnait. Et voilà, et on a vu hier le match catastrophique de Kalidou Koulibaly. Contre nous, il n'a pas été horrible, il n'a pas été flamboyant non plus. Donc effectivement, cette équipe du Sénégal, c'est quand même une grosse déception. Après, pas oublier, je pense que c'était un des potentiels groupes de la mort. Ça s'est avéré être le groupe de la mort, sans doute, même s'il n'y a pas de véritable groupe de la mort comme on avait là en 2014 avec ce Uruguay, Costa Rica, Angleterre, Italie, là, le truc de fou. Mais quand même, je pense vraiment le groupe de la mort, parce que sinon l'autre groupe c'était Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur, Curaçao.
Ouais, c'est ça.
Qui au final s'est avéré être moins intéressant que le groupe qu'on a nous. Donc c'est vrai que le Sénégal qui est très proche d'être éliminé quand même.
Ouais, c'est pas définitif, mais il y aura des équipes à 4 points quoi. Il y aura des meilleurs 3e à 4 points, je pense.
Ouais, franchement, c'est quasiment assuré. Donc derrière, tu dois sauver ta différence de but, et là, du coup, logiquement, t'es à moins 3.
Ouais.
Ça paraît quand même vachement mal embarqué quoi.
Moins 3, l'Irak est à moins 6. On va pas rentrer dans les calculs, ce serait un peu compliqué, je pense, là, de faire tout ça, mais le Sénégal peut encore se poser. Il va falloir quand même essayer de mettre une pilule à l'Irak, quelque chose qu'ils peuvent faire, hein. Mais on verra ça. Est-ce que tu as d'autres équipes dont tu veux nous parler dans cette Coupe du Monde? Sinon, je peux y aller.
Bah écoute, bon, je te laisse commencer, tu sais quoi.
Bah moi je vais commencer par une équipe dont on avait peu parlé dans les favoris et qui pourtant est en forme, c'est l'Argentine. Je trouvais, voilà, on parlait dans les favoris, on mettait beaucoup le Portugal, l'Espagne et la France notamment. On n'a pas mis beaucoup l'Angleterre, j'en aurais bien parlé aussi, mais ouais, l'Argentine qui donc remporte ses deux premiers matchs avec, on voit en fait un Messi toujours très en forme, qui est peut-être encore le meilleur joueur de son équipe. 5 buts, c'est le meilleur buteur, ouais, pour l'instant. En fait, c'est une équipe qui a gardé en grande partie les mêmes joueurs qu'en 2022. Il y a eu des apports en plus, notamment Julian Alvarez en buteur, qui me semble n'était pas là en 2022.
Si, il était là, il était même titulaire de mémoire sur la fin.
Okay, autant pour moi. Enfin bref, voilà, la preuve, c'est un effectif qui n'a pas bougé. Donc c'est une équipe, voilà, en NBA, c'est ça qu'on dit souvent, ne pas négliger le cœur du champion. Et bah, c'est ce qu'on voit un peu sur ces deux premiers matchs où ils s'en sont très très bien sortis. Donc attention à cette équipe d'Argentine qui peut aller très loin et qui était assez peu citée, je trouve, dans les débats du favori au début du mondial et qui pourtant l'est bien, à mon sens.
Bah, c'est vrai que moi j'y croyais pas du tout à cette Messi dépendance là, ouais. Encore alors qu'il a 39 ans et tout, et bon bah voilà, je me suis trompé.
C'est vraiment impressionnant.
C'est impressionnant, franchement, grosse équipe, plutôt intéressant face à l'Autriche, même si j'ai pas été aussi dithyrambique que tout le monde sur cette bataille du milieu de terrain qui a quand même été remportée, mais parce que l'Autriche avait des largesses et se laissait un peu trop de, justement, de largeur sur certaines actions, a été très mauvaise aussi offensivement. Mais équipe d'Argentine très dangereuse, effectivement, avec un Messi qui est en forme et un Messi en forme, c'est toujours
C'est clair. Bah, voilà,
le meilleur joueur de l'histoire, quoi.
Ouais, on est bien d'accord là-dessus. Ronaldo qui a d'ailleurs ouvert son compteur but.
Oui, voilà, vu, ouais.
Tout à l'heure contre l'Ouzbékistan, il a mis doublé. Le match n'est pas fini, il me semble. Non, on a fait pas fini, il y a toujours 4-0. C'est le 84e. Voilà, donc le Portugal qui va donc, on peut en parler aussi. Voilà, on parlait du Congo tout à l'heure. On va rentrer dedans avec donc le Portugal qui a fait match nul pour son premier match face au Congo, qui gagne actuellement donc 4-0 à la 85e minute contre l'Ouzbékistan. C'était assez décevant contre le Congo. Là aussi, on s'attendait, voilà, à ce milieu de terrain flamboyant qui allait desservir des caviars de partout, qui allait être très offensif, très créatif, très très dominant, et c'est finalement ce qu'on n'a pas vu.
Non, ça a été une catastrophe, en vrai de vrai, franchement. Moi, j'ai gardé vraiment deux équipes. Alors, j'ai pas vu tous les matchs non plus, mais j'ai essayé d'en voir le maximum. J'ai gardé vraiment deux équipes qui m'ont choqué comme vraiment les pires, peut-être, ouais, équipes que j'ai vues. Voilà, enfin, j'ai un top 3. J'ai l'Afrique du Sud en troisième. Okay. Finale, match d'ouverture, pardon, qui était, ouais, vraiment pas très bonne. Et en deux, je mets le Portugal.
Okay.
Portugal, parce que c'était une catastrophe industrielle quand même, ce Portugal qui jouait juste sur, enfin voilà, qui faisait la passe à 10 sur tous les bords latérales du terrain, ça n'avait presque aucun sens, pas du tout d'idée, rien de tranchant, tout le monde est tombé sur Ronaldo, mais Ronaldo, il pouvait rien faire tout seul, Ronaldo c'est juste un point de fixation et un finisseur aujourd'hui, il n'y a rien de plus. Pedro Neto, catastrophique, Léao, entrée catastrophique aussi. Vraiment rien d'intéressant offensivement. Enfin, c'est une équipe du Congo, on sait, qui est vraiment une équipe super intéressante.
Oui.
Même offensivement, qui est une équipe. Enfin, c'est vraiment très très bien ce que réalise le Congo. Je l'ai à la CAN déjà, ça avait été quand même assez marquant. Et là, c'est encore peut-être un step au-dessus. Mais les équipes africaines performent énormément dans ce début de Coupe du Monde, que ce soit la Côte d'Ivoire, l'Égypte. L'Égypte qui est super forte.
Ouais,
franchement, là, c'est pareil avec le Congo. Finalement, il n'y a que le Sénégal qui déçoit, parce que même la Côte d'Ivoire a fait des bonnes choses. Donc,
Pu l'emporter face à l'Allemagne.
Qui méritait de l'emporter face à l'Allemagne. Donc, voilà, cette équipe du Portugal, là, gagne 4-0. Donc, vraisemblablement, il y a des choses qui fonctionnent. De toute façon, il faut faire autre chose avec ce 11-là qui est absolument énorme. Enfin, t'as le meilleur milieu de terrain du monde possible et imaginable.
En titulaire, il me semble que c'était Bernardo Silva, ailier gauche, ça m'avait fortement surpris.
Enfin, ailier droit.
Ailier droit, ouais, pardon. Ça m'avait fortement surpris, ça aussi. Ça n'a pas été concluant non plus.
Mais de toute façon, Bernardo Silva, titulaire aujourd'hui en sélection, moi je sais pas, voilà. Il y a quand même d'autres profils qui sont bien plus intéressants. Et donc oui, ça a été catastrophique sur ce match face au Congo. Il se rattrape. Est-ce que ça va être vraiment un vrai réveil sur la Coupe du Monde? J'espère quand même pour le spectacle si on a un Portugal-Argentine en quart.
Ouais.
Mais ouais, ça a été quand même assez compliqué.
On est d'accord. Tu avais parlé d'un top 3 des équipes qui t'avaient déçu. Sur laquelle équipe en troisième?
La dernière, c'est la première mi-temps. J'ai pu voir que la première mi-temps du match face au Panama du Ghana.
Okay.
J'en attendais énormément des Black Stars. Alors Black Star qui était amputé de Thomas Partey pour des raisons qui sont évidemment très bonnes et très justes de lui refuser le visa au vu de ce qu'il a fait.
Un des seuls bons visas refusés.
Voilà, comme quoi ça arrive, mais c'est au Canada.
Ouais.
Donc voilà, les Canadiens sont vraiment des bonnes personnes.
Ils sont lucides.
Voilà, donc, et cette première mi-temps, elle a été catastrophique, sans Kudus aussi, hein, le Ghana quand même, on rappelle, Kudus blessé. Et la première mi-temps, moi j'ai vu des choses qui m'ont très fortement déplu.
Ouais.
Très 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 faible contre un Panama qui est assez étonnant finalement, mais qui est étonnant aussi parce que beaucoup d'erreurs individuelles du Ghana. J'ai l'impression qu'ils ont quand même réglé la mire en deuxième mi-temps, que j'ai pas vu du coup. Mais c'est vrai que la première mi-temps du Ghana était, je trouve, assez compliquée. Ouais.
Ouais. Moi, si je pouvais rajouter un match, ce serait peut-être le match du Qatar face au Canada, qui était vraiment catastrophique dans l'intensité de jeu. Il y a eu l'immense blessure avec l'image terrible. J'ai oublié le joueur. Oui, voilà. Ouais. C'est double rupture du tibia péroné, double fracture plutôt du tibia péroné.
Très moche.
L'image terrible. Donc, deuxième carton rouge en plus à ce moment-là du match. Et ouais, les Qataris qui n'ont absolument rien fait du match, qui n'ont pas proposé de jeu, qui se sont fait laminer de A à Z par le Canada et qui en plus étaient méchants sur leur faute. Donc ouais, c'est peut-être le si on ferait un top 4, je te rajouterais celle-là moi sans souci. Est-ce que tu as une autre équipe dont tu veux parler, peut-être en bien cette fois?
L'Angleterre, hein. Finalement, c'est vrai que l'Angleterre, on n'en a pas parlé. Hein,
non, dans les favoris, pareil, ils n'étaient pas trop.
Franchement, alors, je ne sais pas pourquoi, effectivement, je ne les avais pas mis. Je pense que je n'avais pas encore en tête ce 11 hyper bien équilibré, très bien structuré.
Ouais,
bah. Et le fait que, il y a des très bons entraîneurs qui deviennent sélectionneurs et qui deviennent d'excellents sélectionneurs, et ça on l'oublie aussi parfois. Et Thomas Tuchel, c'est le meilleur coach de la Coupe du Monde, indéniablement.
Ouais, non, c'est choix fait, c'est vrai que c'est des choix forts. Hein.
C'est des choix forts et qui fonctionnent. Et cette équipe de l'Angleterre, elle fait très très peur. Hein.
Ouais, clairement. Je suis d'accord. En plus, face à une Croatie, je l'avais noté, qui a proposé du beau jeu aussi. J'ai trouvé les deux buts vraiment splendides. Ils ont donné du fil à retordre à cette Angleterre qui était encore au-dessus, qui a su passer un step, même en deuxième mi-temps. C'était peut-être le plus beau match pour moi depuis le début de la compétition, ce Angleterre-Croatie. L'Angleterre qui rejoue donc ce soir pour son deuxième match, c'est contre le Ghana.
Donc ça peut être terrible, je pense que ça va être compliqué pour le Ghana.
Mais ouais, j'étais assez d'accord. Et moi, je vais peut-être finir sur un peu déçu de l'Espagne. Là aussi, 0-0 contre le Cap-Vert, avec franchement très peu de choses créées. Et ensuite, sur le deuxième match, c'était un peu mieux, mais c'était pas non plus ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu une dépendance à Lamine Yamal qui se fait, où il y a peu de jeux créés, en fait, sans lui. Ça passe sur ses individualités, ses exploits techniques sur l'aile droite. C'était ça en première mi-temps, il me semble, contre le Cap-Vert. Les 30 minutes, premières minutes, Oyarzabal a touché zéro ballon. Preuve du manque d'efficacité de l'Espagne que j'ai trouvé donc décevante pour un top favori comme tout le monde le mettait.
C'est vrai qu'on avait pas mal de questionnements sur l'Espagne quand même avant la Coupe du Monde, sur est-ce que la paire Koubarsi-Laporte va fonctionner. Beaucoup de joueurs qui revenaient de blessures, des joueurs comme Nico Williams qui ont fait une saison catastrophique. Et là, voilà, Nico Williams, il n'est pas dans une bonne phase, il va sans doute être mis sur le banc. Donc ça veut dire que ce côté hyper dangereux à l'Euro, tu as deux joueurs hyper dynamiques qui ont une capacité d'élimination de l'adversaire assez folle. Et là, aujourd'hui, ils ne l'ont plus du tout, enfin pour l'un d'eux. Donc Yamal est présent sur ça. Oyarzabal a fait un match assez bon, même voire très très bon face à l'Arabie Saoudite.
Il met doublé.
Franchement, il y a des bonnes choses quand même dans cette Espagne. Mais c'est vrai que sur les favoris, moi je trouve que la donne est en train de s'inverser avec effectivement des outsiders comme l'Angleterre, comme l'Argentine.
Ouais, je suis assez d'accord. La France reste à son statut.
Ouais.
J'ai l'impression, le Portugal et l'Espagne ont pris un coup.
On verra, la phase finale, ça change quand même beaucoup de choses à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y a quand même des questionnements.
Tout à fait, voilà, je pense pour le point Coupe du Monde. On y reviendra évidemment jusqu'à la fin de cette compétition qui nous tiendra en haleine tous les soirs. Voilà, avec maintenant sa dernière journée ce soir, et après ce sera deux matchs par horaire. À chaque fois, les groupes jouent tout simplement en même temps. Et donc la France rejoue vendredi contre la Norvège. Et nous, on va s'enchaîner sur les trois dernières minutes assez rapidement sur la NBA. Et donc on en parlait, cette bombe, ce n'est plus une Bosch bombe, c'est donc une Shem Charania bombe. Antetokounmpo est envoyé à Miami. De mon côté, on en parlait un peu en off tout à l'heure, je voyais plus intérêt du côté des Celtics, où je voyais ce gros trade Antetokounmpo contre Jalen Brown se faire. Finalement non, il partira du côté de Miami, je pensais peut-être mieux pour lui, une institution aussi très forte. Hein. De toute façon, les Celtics auraient été très forts aussi. Mais il n'aurait pas eu les clés vraiment de cette franchise qui aurait été plutôt donnée, qui serait restée plutôt dans les mains de Jason Tatum, je pense. Donc là, ouais, à Miami, il aura de quoi vraiment s'épanouir pleinement, retrouver voilà un bon coaching staff, être bien entouré en fait tout simplement autour de très bons joueurs aussi qui pourront être apportés par Miami. Ce que ne faisait pas Milwaukee, ce qui était la raison pour laquelle Giannis voulait partir. Et c'est enfin fait, c'est un trade dont on parlait depuis très longtemps quand même.
Ouais, ça fait des années qu'on entend parler justement du fait que Giannis ait envie de quitter les Bucks. Il y a ce truc-là, est-ce que c'est la meilleure des options pour lui? Peut-être en vrai, pour le coup, vu qu'il il va quand même dans une équipe de Miami qui est assez étonnante aussi sur des performances de joueurs on ne connaît pas le nom.
Évidemment.
Donc ça peut aussi être une bonne chose. Maintenant, c'est très bien pour le projet court terme de Miami. Très intéressant. Sur le projet long terme, c'est un peu plus questionnable quand même. Ouais, avec des choix de draft en 2030.
Il y a pas mal de choses dans ce trade. Mais je pense quand même que ce n'est pas un projet court terme pour moi. À Miami, ils vont essayer de se renforcer autrement que par la draft. Parce que Miami ne peut pas gagner avec l'effectif actuel un championnat. Quoi. Mais ils peuvent s'entourer rapidement, un peu, tu vois, la manière dont le fait les Spurs en apportant petit à petit un Harrison Barnes, un De'Aaron Fox, ce genre de joueurs qui peuvent être apportés à l'effectif de Miami, qui est maintenant très alléchant. Dès que tu ramènes dans Antetokounmpo, tu as envie de venir à Miami. Donc, ouais, on va bien voir ce que ça va donner.
Bah, le questionnement principal, il est sans doute offensif aussi, forcément, sur qui est-ce que tu vas mettre après pour marquer. Donc, il va y avoir des.
Il y a toujours
Bam
Adebayo.
Oui, bien sûr, mais je sais pas, est-ce que dans les grandes rencontres
ce sera avant, on a quand même c'est ce duo d'intérieur qui va être très très intéressant et très très dominant. Donc ouais, ça va être
par contre sur la début de saison, je pense que ça le début de saison prochaine, ça va être assez impressionnant, je pense.
C'est ça, de voir les deux combinés, ça peut être fort sympathique. Dans le même temps, on a Julius Randle aussi qui a été tradé de Minnesota contre rien du tout à Brooklyn. J'ai vu une vidéo de McDaniels qui l'apprend par un fan dans un parc d'attractions, il me semble, aux États-Unis. C'était assez marrant à voir sur les réseaux sociaux. Ça a pas mal tourné.